Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La Tunisie, en proie à une crise notamment économique, accueillera la semaine prochaine une délégation du Fonds monétaire international. La Tunisie, qui a été paralysée jeudi dernier par une grève nationale à l'appel du syndicat UGTT. Nous y reviendrons avec l'ancien ministre tunisien des Affaires sociales, président d'Etakatol, Khalil Zawiya. Gaza, cible de frappes israéliennes après un tir de roquette. Les derniers tirs de roquettes et frappes israéliennes sur Gaza remontaient à avril dernier. Les commémorations du 18 juin ce samedi, l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940. Le président de l'Union des mosquées de France a assisté à la cérémonie au Mont Valérien en présence du chef de l'État, Mohamed Moussaoui, qui souligne l'importance de l'apport des Français de confession musulmane durant la Seconde Guerre mondiale, vous l'entendrez. La mort d'un géant du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant, est décédé hier à l'âge de 91 ans. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, lui rendra hommage. Pic de chaleur aujourd'hui en France, avant une baisse progressive des températures prévues dès demain sur une bonne partie de l'Hexagone. En attendant, les deux tiers du pays sont en vigilance rouge ou orange. Une délégation du Fonds monétaire international est attendue la semaine prochaine en Tunisie. Le gouvernement tunisien négocie avec le FMI un prêt de 4 milliards de dollars. Ce serait en contrepartie de la mise en place de plusieurs mesures auxquelles s'oppose le puissant syndicat UGTT, la centrale syndicale dont l'appel à la grève dans le secteur public a été très suivi jeudi dernier, comme le souligne l'ancien ministre tunisien des Affaires sociales, président d'Etakatol, Khalil Zawiya. Entretien.
Il y a eu une mobilisation qui, depuis au moins 2 mois pour faire réussir cette grève. Donc la grève a été suivie à plus de 90% et notamment ouais, ça approche les 100% le transport, tous les transports, terrestres, aériens, maritimes, tous les transports ont été bloqués. L'aéroport, les aéroports de Tunisie n'ont pas fonctionné. C'est pas uniquement la compagnie tunisienne Tunisair qui en grève, c'est même les agents d'aéroport. Donc il n'y a pas eu ni de vol à partir de la Tunisie, ni d'arrivée. Ça dénote d'une force de l'UGTT, d'une capacité de mobilisation importante. Et puis ça dénote d'une angoisse des salariés sur leur avenir et sur leur situation économique. Et troisième fait, c'est l'incapacité du gouvernement à négocier. C'est-à-dire, si on résume les 10 années d'après la Révolution, il n'y a pas eu de grève générale pour des revendications salariales. Il y a eu quelques grèves générales pour des raisons politiques, lorsqu'il y a eu des meurtres politiques ou lorsqu'il y a eu des attentats terroristes. Mais tous les gouvernements, quel que soit le gouvernement, sont toujours arrivés à trouver une solution négociée avec l'UGTT. Cette fois-ci, le gouvernement n'avait même pas le désir de négocier. Et c'est un signe de faiblesse parce qu'il n'avait pas grand-chose à proposer. Et c'est ça le problème.
Et la situation est particulière aujourd'hui avec cette inflation très importante due notamment à la guerre en Ukraine.
Oui, tout à fait. Et nous approchons allègrement des 9% d'inflation. Mais il est fort possible que d'ici la fin de l'été, on ait une inflation à 2 chiffres. C'est fort possible, ça a même été annoncé par des responsables à la Banque centrale. Donc nous allons devant des difficultés importantes. Et puis bien sûr, plus l'inflation grimpe, plus les demandes sociales vont crescendo. Et ça pose un problème dans ce contexte de crise politique et de difficultés financières importantes pour le gouvernement tunisien.
Une situation qui rend difficile également les négociations avec le Fonds monétaire international qui engendrerait des mesures sociales difficiles pour les Tunisiens.
Oui, avec cette grève, le gouvernement va être en difficulté par rapport au FMI. C'est-à-dire qu'il y a, s'il y a des réformes, un accord sur des réformes qui nécessitent des sacrifices, si l'UGTT n'est pas en phase avec le gouvernement, il va y avoir des difficultés, le FMI va hésiter à s'engager sur un programme de réforme qui risque de ne pas être appliqué, comme ça a été le cas il y a quelques années, avec le gouvernement Shehed notamment, où il y a eu des engagements du gouvernement qui n'ont pas été respectés. C'est une donnée nouvelle et le FMI qui arrive lundi à Tunis, le contenu est en négociation et s'il y a un accord, il ne verra pas le jour avant le mois d'octobre. Là, la négociation va être difficile. D'autant plus que toutes les informations maintenant de ce qui se passe au sein du gouvernement, tout le monde sait que le gouvernement n'est pas homogène, Et par exemple, lorsqu'ils ont fait une réunion de négociation avec l'UGTT, à la dernière réunion, la seule, lundi dernier, les membres du gouvernement qui sont censés représenter le gouvernement n'avaient pas les mêmes propositions. Et il y a eu même des coups de téléphone d'autres ministres qui n'étaient pas présents, qui disaient non, il faut pas faire ça, il faut faire ça, nous ne sommes pas d'accord. Bref, la délégation de l'UGTT a reporté tout ça en disant c'est pas possible. On a eu des ministres devant nous, mais pas un gouvernement.
Quelles sont aujourd'hui les conditions du FMI, du Fonds monétaire international, pour l'attribution de cette aide?
D'abord, la maîtrise de la masse salariale, c'est une condition fondamentale. Deuxièmement, une baisse de la compensation des produits. En Tunisie, on compense tout ce qui est énergie. Les prix sont compensés, donc il y a un prix qui est artificiel, si vous voulez. Et puis, les denrées alimentaires. Donc, ils veulent commencer par tout ce qui est énergie, essence, électricité, gaz, tout ça. Ils veulent que la compensation baisse de manière substantielle. On est actuellement, l'État dépense actuellement autour de 4000 millions de dinars par an pour la compensation, rien que pour l'énergie. En plus, avec cette augmentation du prix du pétrole actuellement, ça a aggravé les choses. Et là, ce n'est plus possible. Bien sûr, l'option, c'est de diminuer la compensation, donc se rapprocher le maximum et arriver au prix réel d'ici quelques années. Et en compensation, ils optent pour ce qu'on appelle le transfert monétaire direct, c'est-à-dire soutenir financièrement les plus démunis. Le problème, c'est que l'État tunisien, actuellement, n'est pas prêt pour effectuer ce transfert monétaire direct, parce que les bases de données, parce que l'informatisation, parce qu'on n'a pas une base claire où il y a toute la population avec les revenus, tout ça, l'État n'est pas prêt pour pouvoir subvenir. Nous avons eu des difficultés importantes au moment du Covid. L'État a voulu aider et la base de données n'était pas à jour et il y a eu au début un cafouillage. On a trouvé beaucoup de gens qui ne méritaient pas d'aide financière et qui les ont reçus. C'est par milliers. Et donc, c'est-à-dire que cette base de données n'est pas encore claire. On n'a pas une base ni unifiée, ni complète. Tout ça, il faut du temps et il faut une volonté politique. Or, je ne pense pas que dans l'année qui suit, on aura cette situation-là en main pour pouvoir effectivement faire baisser la compensation et accorder des transferts monétaires directs aux plus démunis.
Khalil Zaouia, vous avez été ministre des Affaires sociales dans un autre contexte, mais quels sont les fondamentaux pour réussir une négociation avec les partenaires sociaux selon votre propre expérience?
D'abord, il faut avoir une vision de ce qu'on veut, et ça c'est fondamental. Il ne faut pas qu'il y ait une cacophonie, il faut qu'il y ait une clarté avec une ligne directrice évidente. Et deuxièmement, il faut avoir la capacité de convaincre et de convaincre pas uniquement les syndicats, mais aussi l'opinion publique. Il faut être très ouvert, mettre le débat sur le champ public pour faire baisser les tensions et montrer qu'il y a de réelles négociations. Et puis, il faut que les sacrifices, parce que, soyons clairs, nous avons une situation économique désastreuse. Il faut qu'il y ait des sacrifices, mais il faut que la population et les syndicats se rendent compte que les sacrifices seront partagés équitablement, et que les plus démunis seront soutenus, et que les plus riches paieront plus que les autres. En dehors de cela, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est fondamental. Pour les transferts monétaires directs, j'avais initié ce qu'on appelle chez nous l'identifiant unique social. Malheureusement, les gouvernements suivants n'ont pas continué l'action. Alors qu'avoir une base de données nationale où il y a tous les Tunisiens sur avec un identifiant personnalisé, unique, social, est réalisable dans un délai de un an, voire un an et demi à tout casser. Donc il suffit de mettre en branle la machine pour que tout ça puisse se réaliser. Malheureusement, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y en a pas eu. Et pour le moment, juste au moment du gouvernement Farfaire, ça a été remis sur la sellette. Et il y a eu même une commission qui a été créée, puis par la suite, dès la chute de ce gouvernement-là, c'est parti aux oubliettes.
Le président d'État Katol, ancien ministre tunisien des Affaires sociales, Khalil Zawiya. L'armée israélienne a mené des frappes avant l'aube sur des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Une action en riposte à un tir de roquettes depuis ce territoire palestinien. Roquette qui a été interceptée. Les derniers tirs de roquettes et frappes israéliennes sur Gaza remontaient à avril dernier. Hier, trois Palestiniens armés, dont un commandant du Hamas, ont été tués lors d'échanges de tirs avec les forces israéliennes qui menaient une opération dans le secteur de Jénine, en Cisjordanie occupée. C'est arrivé hier dans le nord-est de l'Afghanistan. Au moins une personne a été tuée, 7 autres blessés dans un attentat à la bombe. Attentat contre une mosquée. Cela s'est passé pendant la prière du vendredi dans la province de Kunduz. Toujours en Afghanistan, 2 personnes sont mortes dans l'explosion d'une voiture piégée devant un temple sikh de la capitale Kaboul. Un responsable des talibans affirme que la voiture a explosé avant d'atteindre sa cible après avoir été interceptée par les forces de sécurité. Les commémorations du 18 juin ce samedi, l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940, l'occasion de rendre hommage au dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, décédé le 12 octobre dernier. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui au Mont-Valérien et s'est recueilli dans la crypte aux victimes du nazisme. Parmi les personnalités présentes, le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui, qui souligne l'importance de l'apport des Français de confession musulmane durant la Seconde Guerre mondiale.
J'ai participé à cette cérémonie qui rappelle une part de l'histoire de notre pays et de l'apport aussi des Français de confession musulmane, parce qu'il ne faut pas oublier que les Français de confession musulmane, en tout cas les musulmans qui sont venus en France entre les 14 et 18, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, ont donné leur sang pour que la France d'aujourd'hui soit libre. Et donc cet esprit de résistance auquel ont participé nos ancêtres doit être préservé. D'ailleurs, c'est le sens de l'appel du général Charles de Gaulle à l'époque, où il disait donc que la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Et je pense que nous avons, notamment les générations futures, ont besoin de se ressourcer dans le passé, d'avoir des références d'engagement, de sacrifices qui ont été consentis par leurs ancêtres pour que la France soit libre et soit une grande nation.
Et pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette célébration a eu lieu alors qu'une guerre se déroule en ce moment sur le sol européen.
Tout à fait. Je pense que ça prouve une fois de plus que la paix est une valeur très importante. Les traités qui instaurent la paix sont nombreux dans l'histoire humaine, mais malheureusement, ces traités, s'ils ne sont pas consolidés, préservés, et si la paix n'est pas travaillée et entretenue, malheureusement, on n'est pas à l'abri de recommencements d'épisodes sombres de l'histoire. Il est important effectivement de dire que les valeurs communes, la liberté, l'égalité, la fraternité, la paix, la justice, toutes ces valeurs importantes ont besoin d'être préservées, consolidées, entretenues. Ça ne va pas de soi. La situation que nous vivons aujourd'hui nous le rappelle une fois de plus.
Vous avez mis en avant le rôle des soldats musulmans. Vous estimez qu'il est suffisamment mis en avant aujourd'hui?
En tout cas, il faut continuer à le mettre en avant. Et évidemment, il y a des cérémonies où chaque fois cette mémoire est rappelée. Mais je pense que la société pourrait faire mieux, notamment en direction de la jeunesse de confession musulmane, pour qu'elle puisse se référencer, en fait, se voir, aussi se projeter sur un avenir en puisant dans le passé de leurs ancêtres. J'ai rencontré pendant cette cérémonie le délégué général de l'Ordre de Libération et qui m'a dit qu'il mettait effectivement au centre de leurs préoccupations la transmission à la jeunesse de cet esprit d'engagement et de sacrifice consenti pour la nation.
Le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui. Pic de chaleur aujourd'hui en France, avant une baisse progressive des températures prévues dès demain sur une bonne partie de l'Hexagone. En attendant, il a fait très chaud aujourd'hui. Les deux tiers du pays sont en vigilance rouge ou orange. Des événements festifs, sportifs et culturels ont du coup été annulés. La mort hier d'un géant du cinéma et du théâtre français, l'acteur Jean-Louis Trintignant, est décédé à l'âge de 91 ans. L'hommage de l'ancien ministre de la Culture, président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang.
C'est terrible d'imaginer que cet homme, qui est une immense figure du théâtre et du cinéma français, nous a quittés depuis hier. Mais il est présent dans nos mémoires, dans nos têtes, il est présent sur les écrans. Il a tellement marqué la vie cinématographique. Si on pense à Jean-Louis Trintignant et à ses films, c'est une traversée à travers l'histoire du cinéma français ou international. Et puis, ce n'est peut-être pas assez dit, c'était l'homme de la poésie aussi, sa passion des poètes, sa passion de dire des textes de poésie. Et puis, ses engagements civiques. Je ne peux pas oublier qu'à l'époque où nous battions pour l'élection de François Mitterrand, il était l'un des artistes qui nous a apporté son soutien et durablement. Trintignant est un personnage d'une noblesse extraordinaire, c'est d'une dignité, d'une élégance, d'une beauté stupéfiante, une intelligence, une intelligence de la vie, du monde et des choses. En même temps, un homme si retenu, si digne, si qui a connu de grandes épreuves à travers son père, sa mère,
sa fille
et d'autres épreuves. Cette vie qui a été sans cesse agité, bousculé, marqué par des triomphes, mais aussi par de grandes épreuves.
L'ancien ministre de la Culture, le président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h sera Safia Areski pour le livre de l'ALN à l'ANP, La construction de l'armée algérienne 1954-1991, c'est aux éditions de la Sorbonne, émission rediffusée demain dimanche à 19h, émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.